La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est d'Alain Fournier dont il est question jusqu'à jeudi dans la Compagnie des œuvres, l'auteur du Grand Maulne. Fauché à 27 ans dans les premiers mois de la Grande Guerre, avait passé son enfance dans la région du Berry, une terre qui devait rester son paradis perdu. Élève brillant dans ses jeunes années, ce fils d'instituteur s'était progressivement désintéressé de ses études en réalisant qu'il ne pouvait y avoir pour lui d'autre vocation que celle de romancier, ainsi que nous l'a raconté hier sa biographe Ariane Charton. Alors si l'unique roman d'Alain Fournier a été beaucoup étudié au collège et au lycée, Le Grand Maulne n'en est pas pour autant un livre limité aux lectures adolescentes. Et nous entrerons dans ces thématiques à double fond, notamment demain grâce à Tiphaine Samoyau. Et puis jeudi, c'est Alain Fournier, grand lecteur, qui nous intéressera. Ce sera avec Sylvie Sauvage qui a repéré les influences d'autres écrivains dans son œuvre. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer la genèse du Grand Maulne et aussi pour parler de certains autres des récits d'Alain Fournier, tout cela à l'occasion de la sortie d'un volume de Pléiade consacré à l'auteur du Grand Maulne, et bien nous sommes avec celui qui en est le maître d'œuvre, c'est-à-dire avec vous, Philippe Berthier. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes spécialiste aussi de Stendhal, de Chateaubriand, de Barbey d'Aurevilly, également des personnages de Proust comme Charlus ou Saint-Loup, sur qui vous avez écrit des ouvrages, également de l'œuvre de Jean d'Ormesson dont vous avez établi et préfacé le tome 2 de sa Pléiade, tout comme vous venez donc de le faire pour Alain Fournier, dont vous présentez Le Grand Maulne, mais aussi des documents et un choix de lettres dans la Pléiade, choix de lettres dont on peut peut-être considérer qu'elles font partie de l'œuvre à part entière.
Ah ben tout à fait. Il faudrait peut-être pas trop me pousser pour me faire dire que le véritable chef-d'œuvre d'Alain Fournier, au moins presque sur la même ligne que Le Grand Maulne, c'est sa correspondance avec Jacques Rivière.
Seulement avec Jacques Rivière ou également avec...
Non, surtout avec Jacques Rivière. Quantitativement, d'ailleurs, c'est la part la plus énorme. On le rappelait hier, c'est presque 400 lettres de part et d'autre étalées sur 10 ans, 1903 ou 1904. Je crois que la première lettre est datée de septembre 1904. Ils sont ensemble au lycée La Canale, mais ils s'écrivent quand Henri est malade à l'infirmerie. Le trafic épistolaire bat son plein, et jusqu'à la mort, avec une intensité et une fidélité qui ne se sont jamais démenties, même si sur la fin, à partir du moment où une terza incommoda s'est insinuée entre eux, je veux dire évidemment Isabelle qui a épousé son ami d'élection, on aurait pu croire que ce trio serait stéréophonique, mais en réalité c'était un élément de trouble et de parasitage qui s'est introduit, et la correspondance en a souffert. Elle devient objectivement moins intéressante à partir de ce moment-là. Mais autrement, pour le reste, pendant des années, c'est sublime. C'est vraiment, je crois, une des plus belles, sinon la plus belle correspondance littéraire que nous avons dans notre littérature.
Et pour quelle raison ce sont ces deux personnages auxquels on s'attache ?
Écoutez, c'est deux jeunes gens, absolument exactement contemporains, deux cagneux, dont on pourrait croire qu'ils ont la tête farcie de latin, de grec, et qui sont des pédants en herbe, de futurs professeurs qui toute leur vie annonceront leur latinage. Eh bien, en fait, sans aucune once de sentimentalité poisseuse, sans complaisance aucune, signent entre eux une sorte de pacte tacite d'exigence mutuelle et d'authenticité dans le partage complet relais absolu de leurs préoccupations intellectuelles et artistiques et sensibles. Et donc c'est un échange presque sans exemple. Je pense que on évoquait hier Montaigne et la Boétie. Si nous avions les lettres de Montaigne et de la Boétie, peut-être que ça aurait été de ce genre-là. Nous sommes réduits à les rêver. Mais ce qui est vraiment magnifique, c'est que ces jeunes gens, avec un désintéressement absolu, avec une vocation profonde qui n'a jamais vacillé, se sont promis l'un à l'autre de ne jamais rien se passer. C'était la preuve de la profondeur de leurs sentiments mutuels, de cette affection fraternelle, et d'être l'un pour l'autre un soutien, un accompagnateur, un témoin de la vie intellectuelle, dans une curiosité tous azimuts absolument partagée.
Donc on peut découvrir un certain nombre de ces lettres. Le choix a dû être difficile, j'imagine, Philippe Berthier, entre toutes ces lettres, pour celles que vous avez retenues pour l'édition de la Pléiade.
Disons que nous avons ciblé, évidemment, ce qui se rapporte en premier lieu au grand monde, parce que cette correspondance où il est question de tout, évidemment, est aussi une sorte d'atelier littéraire où l'on assiste en direct à peu à peu, sur des années, disons de 1904, même avant la rencontre épiphanique avec Yvonne de Quièvrecourt, jusqu'à la conclusion de la rédaction en janvier 1913, on assiste en direct à la maturation, hein, ça a été une grossesse littéraire assez longue, de plus de 5 ans, mais au fond pas tellement plus longue que celle d'un roman de Flaubert. Et peu à peu, à partir d'éléments très ténus, en suspension, de vagues balbutiements virtuels, des envies, des désirs, des scénarios possibles, peu à peu, au fil des événements biographiques, au fil des découvertes dans les lectures, au fil des expériences de tous ordres de l'un et de l'autre, peu à peu le projet prend corps jusqu'à ce qu'il atteigne, à partir des années 1907, un point de coalescence.
Donc c'est vraiment un atelier que vous nous restituez dans ce volume de la Pléiade, Philippe Berthier. Et évidemment, il y a le roman, le grand roman, pourrait-on dire, vendu à des millions d'exemplaires. Je crois que en 2006, c'est-à-dire il y a déjà beaucoup d'années, il était déjà vendu à 5 millions et demi d'exemplaires. Aujourd'hui, ça doit être encore beaucoup plus, et cela dans le monde entier. Comment expliquez-vous finalement la fortune publique du Grand Maulne?
Écoutez, c'est une question que je me pose, à laquelle je ne sais pas vraiment répondre. Il faudrait avoir des statistiques dont je ne dispose pas pour savoir si, depuis que les enfants sont du matin au soir collés sur des écrans, et depuis qu'on leur distribue à l'école des préservatifs à l'âge de 13 ans, ils peuvent encore trouver un intérêt à ces tourments de la pureté.
C'est parce qu'on y parle d'amour, justement,
voilà,
dans le Grand Maulne.
Et tout ça, qui peuvent paraître tellement passéistes et provenir d'un univers totalement fossile. Qu'est-ce qui fait que ça les intéresse encore? Alors, à cette question, je crois qu'on peut répondre, c'est Maune lui-même. C'est pas tellement le tableau noir, la craie, le plumier, l'encre violette et tout ça qui ont complètement disparu et qui sont sûrement pour nos élèves d'aujourd'hui aussi loin que le plus reculé Moyen-Âge. Mais c'est ce qu'incarne dans le roman la figure d'Augustin Maune, c'est-à-dire dans la routine, dans le paysage morne et programmé. Mais l'événement, il arriva chez nous un dimanche, c'est la première. Est-ce qu'il y a un plus beau début de roman, plus fulminant, plus immédiat, d'un seul coup? C'est vraiment une météorite qui choit.
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de chasteté hein, dans le Grand Maulne, on reviendra justement sur ce thème, mais il y a aussi, et vous le notez, ce personnage qui tout d'un coup arrive et qui fait tout vaciller et qui chamboule quand même les cœurs, un petit peu comme vous le dites dans votre introduction, Philippe Berthier, comme le personnage de Théorème.
Ah oui.
Alors là, c'est une comparaison assez étonnante, parce que ce personnage de jeune homme qui fait vraiment tomber toutes les personnes de la famille, du fils au père, à la mère, à l'employé de maison, ne ressemble pas tellement. Enfin, Pasolini, ça ne paraît pas la littérature de Fournier.
Non, évidemment, mais il y a quelque chose de ce genre-là. Quel est le premier geste d'Augustin à peine débarqué à l'école? C'est d'y mettre le feu. En découvrant au grenier les fusées du dernier 14 juillet non utilisées, et François Sorel, le fils de l'instituteur, n'avait surtout pas le droit d'avoir des allumettes. Donc il est celui qui vient mettre le feu au monde, c'est le professeur, un instituteur de désir, si vous voulez, qui vient bouleverser ce microcosme complètement étriqué et sans aucun horizon pour y faire advenir le pressentiment, l'imminence d'un événement majuscule et bouleversant.
Alors ça, c'est quand même un petit peu caché, parce que, encore une fois, c'est un roman qu'on a fait lire à des générations et des générations d'élèves, presque d'enfants.
Oui, mais alors je crois, et là c'est ce que j'ai eu tenu à souligner un petit peu dans mon propos, on a lu surtout la première partie, c'est-à-dire la partie féerique, merveilleuse, la fête étrange, le rêve des sablonnières, etc. Tout ce qui est évidemment comme une sorte de conte de fées, la vie quotidienne devient une sorte de conte de fées.
Alors avant de revenir un petit peu sur la genèse du Grand Môn, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de sa réception et de la manière dont vous-même d'ailleurs vous le dites, vous avez pu changer d'avis sur ce qu'il était convenu de penser au sujet du Grand Môn.
Alors Alain Fournier disait « je souhaite être lu ». Je souhaite être lu, il l'a été. Alain Fournier ne faisait absolument pas fi du succès, j'allais dire même au sens commercial du terme. On a bien vu que il n'avait rien négligé pour décrocher le prix Goncourt, avec ce que ça signifie comme conséquence sur la vente. Mais la réception, donc il y a 80 articles à peu près au moment où le roman est publié en décembre 1913, et il n'y a que deux critiques qui prononcent le terme de le mot de chef-d'œuvre. Certains sont plutôt perplexes. C'est ça qui frappe. Plutôt, on ne sait pas trop comment prendre, par quel côté aborder cet objet littéraire assez mal identifiable. Et alors on dit, il y a l'unanimité assez large pour dire le début c'est merveilleux, c'est vraiment très attachant, mais ça se gâte à partir de la deuxième partie. Et un critique aussi fin, les bras vous en tombent, qu'un Albert Thibaudet va jusqu'à écrire cette monstruosité, enfin à mes yeux, il y a 100 pages de trop. Donc ça veut dire que la deuxième et la troisième partie seraient bonnes à jeter aux oubliettes. Je pense que ça a dû faire beaucoup de peine à Alain Fournier, parce que c'était vraiment nier la composition extrêmement concertée. Justement, c'est un concerto en trois mouvements parfaitement équilibrés, et le mouvement du milieu et le mouvement final sont aussi importants que le premier mouvement. Et donc, je crois que beaucoup de lecteurs ont dit que l'intérêt se diluait au fil de la lecture et que finalement, on sombrait dans un certain ennui.
Mais est-ce que finalement, il n'est pas un peu victime d'une critique qui serait celle de la naïveté, et notamment de la naïveté dans le style, du grand classicisme dans le style, dont vous dites que c'est évidemment recherché, mais qu'à la première lecture, on peut considérer comme étant, je ne sais pas moi, une belle composition française d'un très très bon lycéen.
Oui, une rédaction très 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 réussie. Bon, mais alors là, quand c'est justement là qu'on voit, si on lit la correspondance avec Rivière, si on assiste vraiment in vivo au travail acharné d'élagation de tout l'inutile et à tous les sacrifices qu'il a fallu qu'il consente avec une grande exigence esthétique pour justement produire cette impression d'ingénuité, de naïveté, d'évidence. Il y a rien de moins simple que la simplicité.
Alors plongeons justement dans cette fabrique à travers une lettre envoyée donc par Alain Fournier à Jacques Rivière en août 1905.
J'ai hâte d'arriver à ce qui reste de mes vieux projets, si souvent débandés, déroutés, débâclés, à ce qui reste de leurs cadavres, de leurs cendres, à ce qui est aujourd'hui la fumée légère de leurs cendres. La fumée, hélas, la fumée. Dès mes jours anciens d'enfance à la campagne, de nuit dans les dortoirs, ce projet se dessinait dans ma tête. Projet que je n'osais pas même m'avouer à moi-même, d'écrire. Mais ce qui est curieux, c'est que d'abord, je ne me croyais pas capable de faire des vers. Et que maintenant même, mes grands projets ne sont pas des projets de poète, ce sont des projets de romancier. Voilà le gros mot, dit. Bien entendu, là comme ailleurs, beaucoup plus qu'ailleurs, on est un homme qu'à la condition de prendre la plume pour essayer de dire autre chose. Tu m'as entendu parler plusieurs fois avec un sourire d'un roman possible. Il était une bergère ou autre. Ce roman, je le porte dans ma tête depuis des années, moins que cela depuis 3 ans ou plus. Il n'a été d'abord que moi, moi et moi. Mais peu à peu, c'est dépersonnalisé, a commencé à ne plus être ce roman que chacun porte à 18 ans dans sa tête. Il s'est élargi. Le voilà à présent qui se fragmente et devient des romans. Voilà que je commence à écrire les premières pages, à me demander sérieusement si j'ai quelque chose de nouveau à dire.
Donc dans cette lettre du 13 août 1905, Alain Fournier se demande ce qu'il a réellement à dire. Il sent ce roman qui germe en lui, qui s'est élargi et fragmenté en des romans, Philippe Berthier.
Oui, alors au début, dans une des premières lettres où il parle vraiment de projet de roman, au début, c'est la poésie, il fait des vers, bon, comme, j'allais dire un peu comme tout le monde. Bon,
à comme son tout le monde à l'époque.
Voilà, et ensuite, il renonce au vers, il dit non, ce sera par le roman, mais un roman à la manière de La Forgue, ce qui est quand même assez surprenant, donc un roman poétique, un roman qui d'une manière ou d'une autre sera poésie. Mais comment peut-on réaliser ce mixte de romanesque et de poétique? Et là, je crois que c'est son ambition suprême, c'est à travers le rendu de la réalité humble, modeste, quotidienne des gens de son village qu'il a connu, il dit « si j'ai un talent, c'est celui-là ». C'est de restituer la vie.
Est-ce que ça veut dire qu'il a échoué dans la poésie, selon
Non, pas, mais il a senti que c'était pas son charisme, que la poésie n'y a jamais renoncé, bien entendu, mais ce serait par d'autres moyens. Et donc, essayer de faire sourdre, de donner au lecteur le sentiment que, comme Moïse, en frappant le rocher, peut libérer les eaux prisonnières, on peut faire sourdre la poésie de la réalité la plus modeste et la plus prosaïque. Et donc, c'est ce qu'il a voulu faire avec le tableau magnifique de précision et d'authenticité, et d'empathie, et pour cause, de son village, de son pays, qui est le tableau de son enfance, évidemment.
Et c'est un tableau qu'il fait depuis Londres, quand il écrit cette lettre, en 1905, il est dans la capitale anglaise, donc il n'est pas du tout dans la campagne, mais quand il se balade dans les rues de Londres, il voit comme des routes de campagne avec des châteaux de Sologne ou d'ailleurs, donc il y a une capacité aussi à trouver la poésie chez Alain Fournier qui est très très grande.
Oui, comme par capillarité ou comme dans un palimpseste, le paysage berrichon se réimprime par-dessous la nature britannique. Parce que je crois que c'est vraiment une forma mentis, hein, chez lui, c'est vraiment une espèce de structure originelle ou originaire, c'est vraiment, ça se confond vraiment avec son être profond. Et on ne peut pas, il le voit partout, ça l'accompagne partout, ça se confond absolument avec ce qu'il y a de plus essentiel chez lui. Voilà.
Si on ne faisait de... Si on ne faisait de la vie avec ses personnages, du roman avec ses personnages, que des rêves qui se rencontrent. J'emploie ce mot rêve parce qu'il est commode, quoique agaçant et usé. J'entends par rêve, vision du passé, espoir, une rêverie d'autrefois revenue qui rencontre une vision qui s'en va, un souvenir d'après-midi qui remontre la blancheur d'une ombrelle et la fraîcheur d'une autre pensée. Il y a des erreurs de rêve, de fausses pistes, des changements de direction. Et c'est tout ça qui vit, s'agite, s'accroche, se lâche, se renverse. le reste du personnage est plus ou moins de la mécanique, sociale ou animale, et n'est pas intéressant. Ce que je te dis là semble l'énoncé des vérités séculaires et banales sous une forme tant soit peu différente. Mon idéal, c'est justement d'arriver à rendre cette forme, cette façon d'énoncer la vie, tangible, dans des romans, d'arriver à ce que ce trésor incommensurablement riche de vie accumulée qu'est ma simple vie, si jeune soit-elle, arrive à se produire au grand jour, sous cette forme de rêve qui se promène.
Fournier se rêve donc en poète, malgré tout. Est-ce que vous avez lu un certain nombre de ses poèmes? Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Bien sûr. Donc, c'est peut-être l'occasion de parler, parce que peut-être beaucoup ne le connaissent pas, d'un recueil intitulé « Miracle » au pluriel, qui n'est pas une œuvre d'Alain Fournier. Il n'a jamais écrit un livre intitulé « Miracle », mais c'est un recueil rassemblé pour saluer le 10e anniversaire de sa mort par son beau-frère Jacques Rivière, avec ailleurs une splendide et très bouleversante préface de Rivière lui-même. Alors, c'est un recueil qui rassemble des poèmes post-symbolistes, on dira pour faire vite, des proses poétiques et des contributions dans la presse, des articles divers et même des morceaux, ce qu'on pourrait appeler des chutes du grand mot, des morceaux finalement non utilisés, dont certains d'une très très grande importance. Alors pourquoi nous les avons pas recueillis en Pléiade? C'est tout simplement parce que ils ont été édités d'une façon indépassable par Jacques Dupont au Livre de Poche, un modèle de science et d'empathie, et donc nous ne voulions pas risquer de faire double emploi, chacun peut s'y reporter facilement. Mais c'est un livre très important pour veut connaître Henri Fournier.
Est-ce que vous avez l'impression que tout ce qu'il a appris en écrivant ses poèmes se retrouve encapsulé dans le Grand Môn, que finalement le Grand Môn vient voir converger toutes ces essais?
Évidemment, le Grand Môn est une sorte d'élixir, vraiment, c'est très difficile à doser cette chimie, bien sûr, mais c'est une sorte d'élixir de tous les éléments poétiques qu'il avait butinés dans son enfance et dans son cadre de natif. Et donc ça se retrouve évidemment dans la pâte de la fiction, avec beaucoup de choses sacrifiées, encore une fois élaguées, pour se concentrer sur des choses subtiles et essentielles, pour donner une sorte de parfum, de quintessence en quelque sorte, de ce que peut être la vie d'un village en hiver, par exemple, à la fin du 19e siècle, un monde qui pour nous est devenu d'un exotisme complet. Et alors, évidemment, ça m'a peut-être amené à me demander s'il n'y avait pas, dans le succès persistant du Grand Monde, au fur et à mesure que le temps passe, de plus en plus de nostalgie, comme si justement, dans les affres de la mondialisation et dans toutes les interrogations qui sont les nôtres, sur l'identité, sur la francité, sur le sentiment d'appartenance à un lieu, à un pays, à une époque, le Grand Monde ne nous apparaissait pas comme une des dernières bouées auxquelles on pouvait se cramponner avant d'être emporté.
À tel point qu'en fait, c'est un roman qui plaît de la droite à la gauche, alors, des communistes à Barrès.
Oui, il fait l'unanimité, parce qu'il y a le côté évidemment laïque, école Jules Ferry, Hussard Noir de la République évidemment, et puis les cathos se retrouvent plutôt dans le côté virginal d'Yvonne de Galais, n'est-ce pas, dans le fait que elle apparaisse, cet ange descendu des cieux touche terre le jour de l'ascension, c'est évidemment une contradiction, tout un programme, et donc l'éthérisation acharnée et la désincarnation éperdue par Alain Fournier de la figure féminine cardinale du roman plaît beaucoup aux spiritualistes. Donc évidemment, ça morfond un peu les matérialistes, mais chacun y trouve sa pâture.
Et puis on pourrait ajouter quand même que son auteur, Alain Fournier, est mort très jeune, donc ça fait de ce personnage un mythe, et il est mort en plus pendant la guerre sous les balles de l'ennemi. Donc comment voulez-vous ne pas admirer cet écrivain-là ?
Il fait couple avec Peggy, qui n'était pas pour rien évidemment son ami et qui lui avait prophétisé quand même. Peggy lui a dit un jour, Fournier, vous irez loin et vous vous souviendrez que c'est moi qui vous l'aurais dit. Donc Peggy a parfaitement reconnu et salué la valeur de Fournier, et leur mort conjointe à quelques jours d'intervalle dans les toutes premières semaines de la guerre de 14 achève de l'énimber d'une aura qui est extralittéraire évidemment, mais qui en même temps ne peut pas, on ne peut pas le séparer de leur apport artistique en littérature. C'est une sorte d'achèvement, de consécration.
Oui, un peu quelque chose de paradoxal du côté d'Alain Fournier, qui ne s'intéressait pas tellement à la politique, qui n'avait pas grand-chose à faire de l'affaire Dreyfus, et qui se retrouve finalement auréolé d'une gloire qui est presque politique, parce qu'il finit par représenter la France, le combattant français, les campagnes de France.
Sans avoir jamais rien eu de cocardier, enfin le cocorico chez lui, alors c'est complètement étranger, pas du tout, mais en quelque sorte en exemple par sa vie, vraiment par les sabots qu'il a portés quand il était enfant, il était de quelque part, voilà, et sans le moindre chauvinisme, n'est-ce pas, et sans aucune haine pour l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne qui joue un rôle discret mais certain dans le grand monde. Franz, à travers le personnage de Franz qui erre en Allemagne, qui a un prénom, qui s'appelait France dans un débrouillon du grand monde et devient Franz. Donc, comme s'il était un Wanderer du romantisme allemand. Donc, il y a une part de romantisme allemand.
Donc, c'est un salut à la littérature allemande.
Oui, je pense.
Ce personnage-là.
Oui, je le crois. Voilà, très discret mais indiscutable.
Alors, il peut faire d'autres saluts à d'autres littératures d'autres pays, par exemple à Dickens, pour reprendre un petit peu la généalogie de ce roman. Il y a un certain nombre d'autres livres, notamment David Copperfield de Dickens, qui ont dû l'inspirer, en tout cas.
Oui, c'est l'impression qu'on a. Alors, il a une dette absolument immense, enfin je pense que vous en parlerez après-demain, envers la littérature anglo-saxonne, depuis les Stevenson... etc., ou les Cooper, jusqu'à alors qu'elle a une influence absolument capitalissime, aurait dit Proust, sur lui, celle de Thomas Hardy. Les deux grands romans de Thomas Hardy, tellement puissants, tellement sombres, tellement pessimistes, ont laissé sur le grand mot une empreinte profonde.
Alors c'est vrai qu'il faut pas trop déflorer l'émission de jeudi, mais on peut quand même dire qu'il y a un attrait chez lui pour les romans, pour la narration, pour l'histoire. On parlait tout à l'heure de son passage par la poésie, qui reste, mais qui est quand même submergé finalement par son rapport au roman. Est-ce que vous avez le sentiment que Alain Fournier souhaite défendre une forme, la forme romanesque, quand il écrit Le Grand Môle, ou en tous les cas, parce qu'à l'époque, il est peut-être encore plus prestigieux de faire de la poésie, mais lui sent dans le roman comme un véritable avenir de la forme littéraire.
Oui, enfin, je ne sais pas si en 1913 on peut dire que le roman est une forme d'avenir. Enfin, le roman a prouvé depuis un siècle déjà, qu'il était l'avenir. Par exemple, pour revenir à quelqu'un qui m'est cher, apparemment si loin d'Alain Fournier, quand Stendhal décide d'abandonner le théâtre pour miser sur le roman, il prend acte du fait que le roman c'est le genre moderne par excellence, et que si on veut, grâce à Balzac, l'exemple de Balzac, prendre à bras le corps la modernité, ça ne peut être que dans la forme romanesque. Mais alors là, justement, l'adjectif romanesque prend un tout autre sens pour Alain Fournier. Le Grand Monde, c'est un livre sur le romanesque. Qu'est-ce que c'est qu'avoir l'esprit romanesque ? Augustin Mône est foncièrement un esprit romanesque, et c'est parce qu'il s'attend toujours à la merveille que la merveille lui advient dans sa vie, et qu'il peut la propager auprès d'autres. Et donc, il me semble que un des sujets du Grand Monde, et peut-être le sujet le plus important du Grand Monde, c'est l'avènement et la chute du romanesque, la déflation, le gonflement merveilleux et enivrant du romanesque dans La Fête étrange, et puis cruellement, méchamment, réalistement, au long de la deuxième et de la troisième partie, le détricotage maille à maille de ce romanesque vu comme une illusion dont finalement il ne restera que quelques lambeaux.
Alors, il y a aussi dans les lettres de qui sont envoyées à Jacques Rivière un certain nombre d'indications sur ce qu'il souhaite faire en tant que romancier. Il y a notamment l'idée qu'il veut fuir les généralités ou plus particulièrement exprimer le particulier. Qu'est-ce que ça veut dire exprimer le particulier dans l'esprit de Alain Fournier ?
Je crois qu'il y a, un petit litige avec avec Rivière, parce que Rivière, on l'a indiqué hier rapidement, est un esprit beaucoup plus abstrait, beaucoup plus philosophique, alors que Alain Fournier met tout son projet, toute son ambition à être au ras du sol, au ras du vécu, au ras des phénomènes, sans prendre le recul d'une interprétation intellectuelle. Donc, lorsqu'il dit que le roman doit être dans l'immédiateté du perçu, je crois que c'est une pierre un peu jetée dans le jardin de son ami, qu'il accuse quelquefois d'être perdu en abstraction, parce que Rivière est un esprit généralisateur, c'est ce qui fait sa force de critique, hein. C'est un très grand critique, alors que Fournier, lui, ne trouve la vérité que dans les détails, dans les détails indiscutés, incontestables. Un détail parmi d'autres, quand dans le grand monde, il donne l'horaire d'un train, on a fait la vérification. Ce train existait à cette heure-là.
Il y a quelque chose de proustien, justement, voilà, dans la vérification.
L'express
de
7h42 pour Vierzon, il existe. Voilà. Bon, alors, évidemment, le lecteur s'en fiche, il n'en a que faire. Mais c'est pour dire, indiquer symboliquement à quel point ce tissu de réalité est vraiment vient de l'expérience.
Alors, on va revenir sur le Grand Môle, mais j'aimerais, dans cette émission consacrée à l'ensemble de l'œuvre de Alain Fournier, qu'on passe un petit peu de temps sur d'autres textes écrits par lui, et notamment cette nouvelle Portrait, pour commencer.
Vers le mois de mai, David, qui travaillait son examen avec application, fut classé premier, en même temps que moi, dans une composition, française ou latine, je ne me rappelle pas. Ceci nous rapprocha. Parfois, en étude, il venait comparer sa version à la mienne, et nous causions un instant. Il n'était pas satisfait comme je l'avais cru. Il avait, comme tous les autres, l'immense désir d'être un jour officier de marine, mais il n'espérait pas y parvenir. Je n'ai même jamais vu de jeune homme à ce point dépourvu d'espérance. Il parlait de lui-même avec un mépris absolu. Et lorsque je lui faisais quelque éloge, il avait une façon de hocher la tête et de souffler du nez. Pourtant, je lui ai connu aussi des instants d'abandon, des gestes pleins de douceur et de gaucherie. Il faisait l'aimable, le plaisant. Il disait de petites phrases bêtes qui le rendaient tout à fait ridicule. De ces conversations, maintenant que je sais ce qu'il est advenu de David, maintenant je cherche vainement à retrouver quelques bribes.
Extrait de la nouvelle Portrait, lu par Catherine Laborde. Il s'agit donc d'une de celles qu'il a écrites avant le Grand Môle. Alors celle-là, elle n'est pas dans la Pléiade, mais elle fait partie de l'univers quand même injecté dans le Grand Môle. Qu'est-ce que vous souhaiteriez nous en dire, Philippe Berthier ?
Écoutez, je suis embarrassé pour vous répondre, car j'ai très mal entendu le texte qui vient d'être lu.
C'était pas très fort.
Et donc, je suis dans l'incapacité de vous répondre. Est-ce qu'on pourrait parler de Colombe Blanchet et de,
alors,
et de la
Blanchet,
maison dans la forêt,
c'est,
plutôt
évidemment.
Voilà, si ça ne vous ennuie pas.
Bon,
Colombe Blanchet, pourquoi ça n'est pas dans la Pléiade ? C'est parce que cette collection n'a pas vocation à publier des œuvres complètes, mais comme son nom l'indique, le meilleur du meilleur. Or, il va de soi que une esquisse comme Colombe Blanchet, au titre doublement pur, de la pureté au carré, en quelque sorte, ce qui nous en reste est trop peu pour nous permettre de nous faire une idée de ce que ça aurait été. Ça ne peut vraiment intéresser que les spécialistes pointus. Tout ce qu'on remarque, c'est que, bon, comme le titre l'indique, déjà, on aurait évolué dans les mêmes eaux du questionnement du pur et de l'impur, pour reprendre un titre de Colette, et constater que le cadre était différent. Cette fois, on n'est plus dans un village, mais dans une ville, ville, petite ville, etc. Et donc le cadre sociologique était différent. Et à part ça, il y a vraiment encore quelque chose d'encore plus incoatif et plus balbutiant. C'est une esquisse théâtrale qu'il avait conçue pour sa dernière maîtresse, la comédienne Simone, intitulée « La maison dans la forêt », mais franchement, c'est vraiment très peu de choses. Donc, c'est vrai que le Grand Mône se détache comme un massif, enfin, isolé, et que, bien sûr, c'est un peu en trompe-l'œil, il est entouré de textes épiphytes, mais dont aucun ne se hausse au niveau vraiment de l'impérissable. Je crois que ce qui fait qu'on les lit aujourd'hui, c'est que ils se réverbèrent tous d'une manière ou d'une autre sur le Grand Mône, ou le contraire. Donc voilà.
Oui, par exemple avec cette thématique donc du pur et de l'impur oui. Que vous citiez à l'instant, Philippe Berthier, on peut parler aussi d'un autre texte qui s'appelle Le corps de la femme.
Alors celui-là, alors est vraiment,
c'est très très pur. Alors on a l'impression qu'avec un titre pareil, je rappelle, c'est une nouvelle érotique, mais pas du tout.
C'est une réponse polémique à Pierre Louis, qui dans un article avait célébré la beauté antique, c'est-à-dire pour lui forcément la beauté nue. Et alors on voit Alain Fournier, c'est avant la publication de Mône, qui démolit Pierre Louis en disant pas du tout, la beauté de la femme, elle n'est pas dans sa nudité, elle est dans le chaste des vêtements. Expression qu'on retrouve d'ailleurs, je crois, dans le roman. Et il dit la beauté de la femme, elle est dans son vestiaire, elle est dans ses... Julien Gracq d'ailleurs l'a commenté avec humour en disant chez Alain Fournier, la femme ne se déshabille jamais, c'était inimaginable, et au contraire, elle a un manchon, elle a des plumes à son chapeau, elle est couverte la tête aux pieds, c'est une icône vêtue et survêtue, parce que le corps, d'une manière qu'on l'explique comme on voudra, avec l'aide de la psychanalyse ou n'importe, est l'objet d'une censure. Donc la nudité ne doit jamais apparaître.
D'ailleurs, on peut remarquer que l'un des seuls vrais amours vraiment consommés de Alain Fournier, c'est Jeanne. Et Jeanne était une modiste, donc elle travaillait dans la mode.
Oui, bien sûr. Alors le corps, mais par exemple Marguerite Audoux, qui était donc une amie de cette couturière, qui a écrit un chef-d'œuvre, Marie Claire, et qui a été amie d'Alain Fournier, était dans le tissu aussi. Et il y a dans le Grand Mône des scènes où la mère de Sorel le prend comme arbitre de ses élégances, le consulte sur ses chapeaux, sur ses vêtements, donc ce qui le constitue en figure de féminité. Mais en tout cas, bon. Là, cela nous amène à la question béante, qui est l'occasion de discussions et de désaccords entre admirateurs d'Alain Fournier sur le rôle exact de la sexualité, du sexe de la femme dans sa vision du monde et des choses. Je suis de ceux, peut-être parce que j'ai un peu mauvais esprit, je ne sais pas qui, mais c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant à cette édition. J'avoue que je n'y avais pas tellement pensé auparavant, qui croit que vraiment Isabelle Rivière a joué un rôle néfaste en s'acharnant d'une manière, je pense, qui n'était pas très honnête intellectuellement, à éliminer de tout ce qui concernait son frère tout ce qui pouvait être sexuel. Il importait qu'il fût un être pur, un être vierge, un être éthéré, presque un saint, une figure de micelle. Or, quand on voit, quand on connaît la vie de Fournier, quand on lit ses lettres à Jeanne Bruno, quand on lit ses lettres à Madame Simone, c'est un être d'une sexualité brûlante et avec des penchants extrêmement morbides, sadomasochistes, autodestructeurs, dont on trouve les échos dans le roman.
Alors voilà, il y a quelque chose en effet dans son rapport aux femmes et aux jeunes filles d'un petit peu pervers, à tel point que à la fois il les aime et en même temps il les fait souffrir, et en même temps il se regarde les faire souffrir, il s'en veut de les faire souffrir, mais il aime aussi les faire souffrir. C'est assez complexe.
On saurait mieux dire. Et il est très lucide et il se rend compte à quel point il y a en lui des penchants véritablement qu'on peut qualifier de pervers. Or, c'est cet aspect qu'Isabelle, évidemment mue par les sentiments les plus nobles et les plus respectables, a voulu raturer autant qu'elle le pouvait.
Ce sont des femmes sur le lac dans une barque doublée de soie. C'est la partie de plaisir. Ce chant que nous entendions, pareil à un palais d'or et de roses entre les saules du bord de l'eau, pareil à une femme qui lève sa coupe vaine avec des larmes de gloire, pareil au visage le plus passionné qui se cache à l'avant de la barque dans des manches de brocart, c'est le chant de Marthe et de Madeleine. Je reconnais la voix des deux filles frivoles, nous les disions frivoles. Nous ne savions pas que ce lac, dans la vallée inculte surplombée là-bas de collines grises et rocheuses, abritait tant de désirs insoupçonnés. Nous ne pensions pas au déclin de ce jeudi soir, tandis que nous chassions dans la solitude, découvrir où s'évadent les âmes des enfants enfermés. Avancez-vous entre les branches des saules et regardez. La plus studieuse, celle qui lisait sa leçon tous les volets fermés dans la chambre fraîche, les cheveux les plus rebelles de son front lissé, touchant presque à la page, voyez maintenant toute sa chevelure relevée comme une huppe de perruche, comme un casque de Dogarès, toute sa chevelure mutinée. Telle est la transfiguration du désir. J'en entends sans les voir d'autres qui babillent, qui commencent des phrases incompréhensibles, charmantes, et qui s'arrêtent, ne sachant pas les finir. Ce sont celles qui n'ont rien dit, jamais.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Avec cet extrait de « La partie de plaisir », titre très éloquent, Philippe Berthier, de cet autre texte d'Alain Fournier. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette partie de plaisir ?
Oui, la partie de plaisir, le titre pourrait susciter des commentaires ironiques, n'est-ce pas ? Où est le plaisir ? On se le demande parce que, véritablement, il y a un tel parti pris de désincarnation la femme est totalement escamotée, enfin mystifiée dans sa réalité physique. En venant ici tout à l'heure, je m'amusais un peu en pensant que les trois éditions qui ont précédé la mienne ont été faites par des collègues femmes, elles sont toutes les trois excellentes, Marie-Hélène Boblet, Tiphaine Samoyau et Sophie Bache. Et je me suis dit que pour des universitaires femmes, il fallait vraiment beaucoup d'abnégation pour s'intéresser d'aussi près à un livre aussi peu féministe. Enfin, c'est une litote parce que c'est une entreprise systématique d'escamotage du corps de la femme. Donc, comme si Alain Fournier voulait se punir dans sa vie d'avoir été incapable de se maintenir au niveau de pureté où il faut à tout prix que son héros romanesque se vive.
Mais vous entendrez demain que Tiphaine Samoyau déconstruit tout cela très bien sans peut-être utiliser le mot de féministe. Alors il y a André Gide dont il faudrait dire un mot. C'est peut-être lié d'ailleurs à ce qu'on disait à l'instant Philippe Berthier, parce que André Gide par exemple, ce texte, La partie de plaisir, il ne lui a pas plu, il ne l'a pas publié lié à la NRF, peut-être parce que Gide, justement, est un écrivain au contraire de la sensualité, qu'il trouvait peut-être un peu trop éthéré, je ne sais pas, les textes d'Alain Fournier. Qu'est-ce que vous en dites ?
Oui, écoutez, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu une tiédeur de Gidienne à l'égard des productions d'Alain Fournier, et ça s'est manifesté au moment de la publication du roman. Bon, Alain Fournier n'avait pas attiré les sonnettes des éditeurs pour placer son manuscrit. Son manuscrit, tout le monde le voulait, donc ça a été même ça, son problème. Et donc, il semblait aller de soi que son manuscrit serait publié par la NRF, puisque Jacques Rivière y travaillait et que Alain Fournier avait publié dans la revue beaucoup de contributions. Or, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et on a eu cette solution très bancale d'une publication saucissonnée dans la revue, dans plusieurs numéros, et puis en volume chez un autre éditeur, chez Émile Paul, dans la perspective que, vu la tiédeur gidienne, on se doutait que Gide ne pousserait pas tellement le roman pour décrocher le Goncourt et qu'il valait mieux miser sur un autre cheval dans une autre maison d'édition plus ancienne. Donc Gide n'a pas tellement aimé le Grand Mône. Et lui aussi, il dit, je sais bien que le sujet du Grand Mône, c'est la déception, c'est la déflation, c'est l'écroulement finalement, hein, c'est la platitude. Hein. Flaubert disait, on ne comprendra pas l'éducation sentimentale parce que c'est un livre livre qui ne fait pas la pyramide. Bon, or c'est un peu ça. Il y a la pyramide dans le grand monde, elle est dans la première partie, c'est la fête étrange. Et ensuite on tombe dans la peinée pleine, et puis dans l'insignifiance de hasard, de contretemps, de fausses informations, de toute la vulgarité de mille circonstances banales de l'existence qui font que peu à peu tout ça s'enlise, s'embourbe et vraiment vient démentir complètement l'éblouissement premier. Donc Gide dit, je comprends bien que c'est le sujet, mais quand même, ça devient ennuyeux.
En même temps, Gide, la même année, n'avait pas su apprécier du côté de chez Swann. C'est d'ailleurs intéressant que ce soit en 1913 que paraissent conjointement du côté de chez Swann et Le Grand Maulne. Alors, c'est des romans qu'on a envie d'opposer quand même.
Bien sûr, alors on avait un peu caricaturellement, on a dit voilà, dernier roman du 19e siècle, Le Grand Maulne. Premier roman du siècle nouveau, Proust. Alors, ils se sont ignorés. Enfin, je peux me tromper, à ma connaissance, il n'y a jamais chez l'un et l'autre la moindre référence à l'œuvre de l'autre. Donc, je crois que on a pu montrer, les Proustiens ont pu montrer que, à travers la problématique de la mémoire, il y aurait des passerelles à établir, passerelles volantes entre les deux œuvres.
Le rapport à l'enfance.
Et oui, le rapport à l'enfance, évidemment. Et quand le narrateur dit qu'il n'a qu'à fermer les yeux pour retrouver, évidemment, ces deux côtés, c'est dans mon cœur. Bon, bah, ça, c'est une phrase qui aurait pu être signée Alain Fournier.
Mais en même temps, il y a stylistiquement quand même des choses très très différentes et on a l'impression d'un côté d'un grand classicisme, je le répète, avec Alain Fournier, et de l'autre d'un grand modernisme, d'une grande modernité dans la phrase proustienne. Est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que pour vous, c'est qu'on ne sait pas vraiment lire profondément le Grand Maulne qui est aussi moderne?
Alors écoutez, moi je suis persuadé, enfin, personne n'était plus moderne qu'Alain Fournier. C'est frappant dans sa vie, avec Rivière. Ce sont des affamés de modernité en littérature, en peinture, en musique, qui sont au premier rang de ce qui est nouveau. Ils mordent immédiatement à l'hameçon Claudel. Ils sont à la première du Sacre du Printemps. Ils écoutent avec extase Péléas et Mélisande. Ils sont toujours vers le plus récent, le plus nouveau. Et je suis persuadé que si Alain Fournier avait vécu, des liens se seraient noués avec Proust. Ça, c'était, il était prédestiné à nouer des liens d'admiration et peut-être d'amitié avec Proust. Et il aurait reconnu la modernité de Proust.
Et alors, est-ce que précisément, dans la construction que vous nous décriviez tout à l'heure du Grand Maulne, avec cette deuxième partie qui semble un petit peu comme ça, un petit peu évanescente,
oui,
un petit peu s'effilocher, est-ce que ça n'est pas une mécompréhension de la modernité justement du texte d'Alain Fournier?
À cette question, je répondrai oui. C'est ça qui est moderne, justement, chez Alain Fournier. Si on dit que, ça peut se discuter d'ailleurs, que la modernité a exploré avec prédilection tous les territoires de la perte, on peut dire que le Grand Maulne, alors là, c'est un livre de premier choix sur la perte. Qu'est-ce que ça raconte? Sinon, la chute et la perte.
Et ça se sent dans la construction elle-même.
Voilà.
C'est une journée de février très douce, parmi les arbres nus et les massifs noirs. Ce matin, il a plu doucement de la pluie tiède. Il y a dans le ciel des moineaux qui chantent partout et qu'on ne voit pas. C'est un dimanche de banlieue, des coqs chantent par la fenêtre. Je sens comme s'il y avait en moi de grands désirs écrasés. En descendant des chambres à l'instant, par l'escalier du second quartier, j'ai regardé à la fenêtre de l'escalier et j'ai vu derrière un mur un château, comme un décor descendu du ciel, une allée de sable, une grille, un coin de parc avec la mousse au pied des arbres, plus loin le perron, les ardoises mouillées du toit, et dans mon cœur, l'après-midi qui va se passer là et ailleurs. Oh, ces grands désirs qui s'écrasent contre une fenêtre. Et comme j'en ai vécu des années dans les lycées.
La compagnie des œuvres sur France Culture. Nous sommes avec vous, Philippe Berthier, pour écouter ensemble cette lettre, toujours de Fournier à Rivière, dans laquelle on sent l'atelier dont vous parliez tout à l'heure, parce que c'est déjà un petit roman finalement, c'est déjà une petite scène du Grand Maulne qu'il y a dans cette lettre-là.
Et c'est tout du long comme ça, voilà. Donc, en lisant ces lettres, on partage véritablement la gestation intime de l'œuvre. C'est pourquoi cette publication est indispensable.
Et du coup, Rivière, évidemment, avait une connaissance extrêmement fine de l'œuvre de son meilleur ami. Il a écrit d'ailleurs, en tant que critique littéraire, des choses sur le Grand Maulne.
Oui, mais alors là, je renvoie à justement cette magnifique préface du recueil Miracle, où il expose évidemment ses souvenirs de leur vie partagée, mais également porte un jugement sur son apport proprement littéraire, et un jugement remarquable parce que évidemment il est un témoin avec Isabelle, mais beaucoup plus qu'Isabelle à mon avis, parce qu'il a été témoin de la vie intime de l'esprit de Henri, et en même temps il ne se laisse pas égarer par l'affection. Il garde toute la lucidité, toute l'exigence, en se maintenant ainsi au terme du pacte initial et jamais démenti qu'ils avaient conclu à 18 ans.
Alors c'est un roman extrêmement complexe, on ne cesse de le comprendre. Un roman aussi que la sœur de Alain Fournier a un petit peu retravaillé dans l'imaginaire des uns et des autres. D'ailleurs, vous partez de ce prénom, Isabelle, pour dire qu'il y a beaucoup de sœurs qui s'appelaient Isabelle et qui se sont attelées à changer un petit peu l'œuvre de leur frère.
Oui, évidemment. Je me suis reproché, en me relisant, je me suis dit, mais comment n'ai-je pas cité Eugénie de Guérin ? C'est monstrueux, d'autant plus que je crois la connaître un peu, mais vraiment, Eugénie de Guérin a fait avec son frère Maurice exactement la même chose qu'Isabelle Rivière avec Henri, ou Isabelle Rimbaud et avec Arthur, n'est-ce pas ? Ces sœurs vampiresses qui sont animées des meilleures intentions, qui s'imaginent être des veuves et donc chargées de défendre un héritage moral et qui sont prêtes à toutes les distorsions pour maintenir une certaine idée, l'idée qu'elles se font, comme par hasard toujours dans l'idéalisation la plus spiritualiste, en raturant tout ce qui pourrait faire croire qu'ils étaient en proie à des pulsions sexuelles ou autres. Donc c'est une sorte, ce mysticisme qui est aussi une forme de mystification. Donc il n'y a de ma part aucune polémique, mais vous voyez, encore tout récemment, là, à l'occasion de cette publication, dans une estimable revue chrétienne, un critique d'ailleurs bienveillant m'a reproché mon regard trop horizontal. Mm-hmm. Vous voyez, il trouvait que ma lecture du Grand Maulne manquait de verticalité, parce que c'est ce qu'on attend, voilà, et je crois que c'est
pour les enfants
d'Isabelle Rivière.
Et les adolescents, c'est censé en tout cas être destiné
à... Alors je crois que justement, s'il y a quelque chose que Alain Fournier a voulu faire, c'est justement de refuser la verticalité.
Mais voilà. C'est assez étrange, et peut-être un petit peu triste aussi, parce que Isabelle Rivière était exactement au carrefour à la fois de son frère Alain Fournier et aussi de son mari Jacques Rivière, au carrefour de l'œuvre, exactement au carrefour de l'œuvre. Et on a du mal à croire, ou alors ça dit beaucoup finalement des relations que tous les trois entretenaient, on a du mal à croire qu'elle n'est pas saisie.
Mais, malheureusement, Jacques Rivière est mort trop tôt, beaucoup trop tôt, et alors Isabelle a occupé le terrain toute seule. Elle est morte très âgée, tant mieux pour elle, mais je veux dire, il n'y avait plus qu'à...
Ça veut dire qu'ils n'ont pas parlé ensemble du texte.
En tout cas, je pense que si Jacques Rivière avait vécu davantage, il aurait tempéré et rééquilibré, je pense, les lectures de son épouse. Mais là, elle se sentait en quelque sorte doublement légitime par sa légitimité de sœur et par sa légitimité de veuve, de l'amie de cœur, à imposer une version en quelque sorte officielle. Et c'est vrai que c'est un petit peu agaçant chez les amis d'Alain Fournier et Jacques Rivière, inséparables d'ailleurs, la société qui entretient avec beaucoup d'activité, dévouement leur de mémoire, double et unique, s'appelle Amis de d'Alain Fournier et Jacques Rivière. On ne peut pas plus les séparer que Castor et Pollux. Bon, eh bien, je crois qu'il y a un côté quand même cultuel. Et donc, je crois que c'est quand même un peu... Ça dépend d'une certaine hygiène de l'esprit, de peut-être rappeler qu'il s'agit de garder raison et dire que Yvonne de Galet, c'était pas la Sainte Vierge.
Ouais. Et vous, alors, on peut terminer là-dessus très rapidement. Vous l'avez lu à quel âge et...
Comme tout le monde, j'ai dû le lire à 13 ans, 12 ans, 13 ans.
Qu'est-ce qui vous a fait ce roman ?
Oh, bah écoutez, voilà, oui, bah, j'ai fait mon petit grand monde, comme a dit Giraudoux, comme on dit beaucoup d'autres.
Sartre aussi.
Voilà, oui, Sartre, dans les mots, fait dit, voilà, on est à l'âge où on fait son petit grand monde, on se croit. Mais enfin, j'étais plutôt Sorel, je crois.
Merci beaucoup, Philippe Berthier, pour prolonger cette émission. Je renvoie nos auditeurs, ceux qui le souhaitent, au volume de la Pléiade consacré donc à Alain Fournier, paru chez Gallimard cette année, et dont vous êtes le maître d'œuvre. Tout de suite, c'est la chronique.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Une chronique qui nous est proposée aujourd'hui par vous, Valérie Thorragnan, directrice de la revue Des Deux Mondes. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors, vous titrez la revue Des Deux Mondes sur ce que vous appelez l'épuisement français, avec une photo d'Emmanuel Macron totalement avachi dans un fauteuil. Parlez-nous-en un petit peu.
Oui, alors effectivement, cette photo où le président a l'air vraiment au bout du rouleau, et puis en exergue cette citation d'Alexis de Tocqueville, « Une nation fatiguée de longs débats, consent volontiers qu'on la dupe, pourvu qu'on la repose », citation extraite de l'ancien régime et la Révolution. Alors, l'épuisement français, donc, c'est le thème de ce nouveau numéro, épuisement du système hospitalier, épuisement d'une administration incapable de s'extraire des lourdeurs bureaucratiques, lassitude et amertume des Français et pas seulement des classes populaires. La France est-elle définitivement devenue une nation de troisième zone, dépendante de la Chine et de l'Inde ? Sommes-nous capables de faire le bilan politique, économique et moral de cette crise ? Que nous manque-t-il ? C'est la question posée par Sébastien Lapacq à François Sureau. L'écrivain avocat y répond dans un long entretien. Il nous manque, dit-il, la confiance en une destinée qui ne serait pas réduite à la réussite immédiate. La capacité d'accepter, en certaines circonstances, des choses profondément déraisonnables. Et une parole performative, c'est-à-dire non seulement qui sonne, mais qui soit capable de produire des effets dans le réel. Pour l'ancien conseiller d'État, la seule question politique est de savoir ce qui peut susciter l'assentiment public aux institutions afin d'éviter le chaos. Car, s'inquiète-t-il, cet assentiment disparaît à la fois dans l'élite et dans le peuple.
Alors la pandémie a, selon vous, révélé à la fois le pire et le meilleur de la France.
Oui. Comment une nation peut-elle être ainsi hémiplégique, s'interroge Alain Main. Comment le sens de l'initiative des uns survit-il face au délire bureaucratique des autres? Pourquoi la spontanéité de la société civile ne prend-elle pas l'ascendant sur la passion de la réglementation? Comme toute crise, elle a aussi, hélas, fait le lit des médiocres. La recherche du bouc émissaire, la soif de vengeance, un fort appétit pour la dénonciation se sont manifestés, écrit Éric Roussel. Sans parler de la propension des Français à stigmatiser ceux auxquels ils demandent de les conduire, dont ils attendent tout et qui les déçoivent.
Et puis dans ce numéro, on trouve également une interview de l'ancien ministre Bernard Debré qui vient de disparaître.
Effectivement. Et alors dans cet entretien, il dressait un constat sans langue de bois, vous le connaissez, sur l'état de l'hôpital. Il faut réduire la place des gestionnaires et redonner sa légitimité aux médecins au sein de l'hôpital. Tel était son diagnostic. Le professeur de médecine pointe aussi une part d'ombre et de non-dit, la dépendance des médecins, dont certains membres du conseil scientifique, aux laboratoires médicaux. La mauvaise gestion de la crise, c'est peut-être aussi l'absence quasi totale de culture scientifique dans l'administration et la classe politique, due notamment aux conditions de recrutement des hauts fonctionnaires. Il est devenu nécessaire, écrit Annick Stetta, de procéder à une révolution culturelle consistant à réduire la place accordée aux gestionnaires et à accroître celle attribuée aux têtes chercheuses.
Et puis enfin, toujours dans ce numéro, une chronique assez désabusée d'Éric Neuhoff qui fait son dépôt de bilan.
Oui, un bilan désenchanté qui débute ainsi. Quand même, nous avons été au-dessous de tout. Éric Neuhoff évoque sa famille littéraire, celle qu'on baptisa les nouveaux hussards. Nous fûmes les champions du dérisoire, des médailles d'or de la pirouette. Le sérieux n'était pas pour nous. Notre devise, un haussement d'épaule. Avec ça, nous n'irions pas loin, nous y sommes. la course est presque finie. Et encore, les hussards sont descendus de cheval, ils siègent dans des jurys, surveillent leurs kilos en trop, se sont habitués à la conduite automatique. Aucun mort sur la route parmi les écrivains d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Valérie Toragnan. Tout cela et bien plus encore est à retrouver dans la revue des Deux Mondes, disponible en librairie. C'était La Compagnie des œuvres, une émission proposée aujourd'hui par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Marie-Laure Ciboulet, Laurence Genepin, Romain Billet et Alexandre Dang. Demain, nous analyserons toujours Le Grand Maulne d'Alain Fournier, mais cette fois-ci en compagnie de Tiphaine Samoyeau, écrivaine, critique littéraire pour la revue en ligne En Attendant Nado, également professeur de littérature comparée à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Et puis, n'oubliez pas le magazine papier, le magazine de France Culture actuellement en kiosque. Son sujet, c'est l'Amérique de Trump. Dans un instant, les sciences.